Quand on vieillit, on arrive avec ben du stock. Hein? Vous voyez, les écrans, ils grossissent parce que les yeux rapetissent. Ça sera pas long, ça sera pas long. Si vous êtes patient, ça sera pas long, il va en avoir une marche. Bon. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, les couples. Vous allez bien? Votre couple va bien? Ouh! Il y a de l'ouvrage? Oui, bon. C'est bien, c'est bien. La semaine passée, vous vous rappelez, notre frère Trevor avait parlé de « avant le « oui, je le veux ». J'ai fait une farce à Adama. J'ai dit « cette semaine, ça va être non, il est trop tard. » C'est après le « oui, je le veux ». On m'a demandé d'emmener... de parler des couples, du couple, de ce mystère-là, des couples, pendant 45 minutes. Et tout d'un coup, lorsque j'ai su le sujet, j'ai été stressé. J'ai dit, comment je dois faire pour parler du couple pendant 45 minutes? Ça fait 45 ans que je vis en couple et je n'ai pas encore tout compris. J'étais encore en formation. Deuxièmement, j'ai été stressé. Pourquoi? Parce que mon épouse est dans la salle. Puis il faut que je résiste à faire 45 minutes sans coucher sur le divan un soir. Non, mon épouse n'est pas comme ça. Le concept de famille pour Dieu, c'est de premier plan. Dieu a constamment... dans ses visions, l'histoire de la famille, de toutes les sortes. Le début, la Genèse, Dieu a tout créé, un environnement idéal, tout ce que l'on a autour de nous, et il a créé un homme, une femme, et il a dit, « Vas-y, peuple la terre. » Et tout le long, il est question de famille. À la fin de l'Ancien Testament, il parle du Père et de son Fils. Le début du Nouveau Testament, il parle avec l'histoire de la famille, une généalogie. Et la fin du Nouveau Testament, c'est une histoire de famille fabuleuse, des noces de l'agneau, qu'on espère tous y participer. Le concept de famille... est la base de notre société. Toutes sortes de familles, des familles reconstituées, des familles monoparentales, des familles de toutes les sortes, des familles avec Dieu, des familles sans Dieu. De toutes les sortes, mais nous venons tous d'une famille. Une publicité qui m'avait beaucoup touché et que je me rappelle encore, c'était une publicité sur le lait. Puis il disait, il y avait, c'était une histoire de dans un chalet, il y avait toutes sortes de monde, tu voyais toutes sortes de monde, puis il y avait un jeune qui se promenait avec sa pinte de lait, puis il dit à un moment donné, on peut dire mon ex-blonde, on peut dire mon ex, mais on ne pourra jamais dire mon ex-famille. Nous venons tous d'une famille, nous sommes tous originaires d'une famille. Dieu l'a dit comme de sa meilleure manière. Dieu a dit, il va quitter son père et sa mère, il va s'attacher à sa femme et ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Et on va en parler plus loin aussi dans la prédication de cette seule chair. Le mariage. Le mariage, est-ce que c'est un duo ou si c'était un duel? Est-ce qu'on se lève en disant, j'ai hâte de voir mon épouse? Ou si on s'en va tout de suite dans la cave, il ne faut pas qu'elle nous voie le moins possible. Un duo ou un duel? Si on exempte le salut, je crois que le couple, la famille, c'est la création de Dieu qui reflète plus son amour. C'est l'amour poussé à l'extrême. J'aime Dieu. J'aime beaucoup Dieu. J'aime plus Dieu que ma femme. Et je crois que c'est le bon ordre. Mais je vous garantis qu'il n'y a personne ici qui va remplacer l'amour que j'ai pour mon épouse. Il y a Dieu, et juste suite en dessous, il y a mon épouse. Mais je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi j'ai été attiré par cet inconnu? Au début, je ne la connaissais pas. Ben, je l'ai connue, j'ai connu son frère, je l'ai connue. Mais c'était une inconnue pour moi. Même que, je vous garantis, je ne vous ferai pas de vous faire une histoire courte, là, mais au début, je l'haïssais. Puis c'était réciproque. Sérieux, c'est vrai. Mais tout d'un coup, j'ai toujours resté à grand-mère. D'ailleurs, j'ai acheté la maison de mon père. Puis, je l'ai vu à Montréal. Je l'ai vu dans un autobus à Montréal. J'ai dit, hey, c'est elle, ça? Là, tout d'un coup, j'étais attiré. Pourquoi j'étais attiré? J'en ai aucune idée. J'étais attiré au point de faire des détours d'autobus à Montréal pour prendre la même autobus qu'elle. Hey, c'est de l'amour, ça. J'ai été attiré, puis je ne comprenais pas. Je me couchais le soir, puis je ne voulais pas dormir, parce que dormir, pour moi, ça veut dire arrêter de penser à elle. Fait que j'ai eu quelques soirées difficiles à m'endormir. Je ne comprenais pas pourquoi que les journées de travail sans elle étaient si longues, puis que les soirées avec elle étaient si courtes. Puis pourquoi qu'après 45 ans, ça va faire 45 ans en août, pourquoi qu'après 45 ans, elle est toujours aussi attirante? La seule réponse que j'ai eue, c'est parce que Dieu était bon envers moi. Dieu a dit, ce que je vais mettre entre tes mains, c'est précieux. Puis maintenant, je peux le glorifier. Je peux rendre gloire à Dieu de ce que Dieu m'a donné. Elle ne m'appartient pas. Mais elle veut rester avec moi. Dans notre société, le mariage n'est pas bien compris. Le mariage est traité de tous les noms. Si vous travaillez dans une shop ou si vous travaillez à quelque part à travers des gens, ils vont décourager le mariage, ils vont avoir des expressions. Il y a un paquet de farces qui existent sur le mariage, sur la vie de couple. Et c'est anodin. Tu vas te marier, tu vas te passer la corde au cou. Vraiment, on entend ça couramment. Quand tu as décidé de te passer la corde au cou? Non. J'ai pas de marque, en tout cas. Mais Dieu n'a pas la même vision du mariage. Dieu a une autre vision du mariage. Dieu a dit, c'est une bonne chose pour l'être humain, en général, il y a des exceptions. Mais c'est une bonne chose, en général, que l'homme ne soit pas seul, qu'il ait quelqu'un avec lui. C'est bon. Le mariage doit être honoré de tous. Et c'est Hébreux qui dit ça. Que le mariage soit honoré. Le mot honoré, Timao, veut dire respecter, regarder comme une grande valeur. C'est quelque chose qui est important de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Excusez. Un autre endroit, dans Proverbes. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. La vie de couple, vie précieuse, selon Dieu. C'est important. C'est des beaux mots qui sortent de la bouche de Dieu. Comme individu, on laisse une trace sur Terre. J'espère que je vais laisser une trace qui va durer plus que le temps des obsèques. Nous laissons tous une trace sur la Terre, comme homme ou comme femme. Je me rappelle de mon père, je me rappelle même de mon grand-père, certaines choses qu'il faisait. Mais comme couple, on va dans le même processus. Comme couple, on a un impact. On laisse une trace aux gens qui sont autour de nous. Naturellement, les enfants du couple sont les premiers affectés par le couple lui-même. Les enfants, c'est important la manière que le couple fonctionne. D'ailleurs, il y a un homme qui disait à son fils lors de son mariage, il dit, le plus grand cadeau que tu peux faire à tes enfants, à tes futurs enfants, c'est de montrer beaucoup d'amour envers ton épouse. Et commence tout de suite afin que tu sois bon, mais qu'ils arrivent. Démontre beaucoup d'amour. Parce que lorsque tu démontres de l'amour envers ton épouse, tu dis à tes enfants, voilà comment ce qu'on doit faire. Et c'est important de manifester beaucoup d'amour envers notre époux, notre épouse. Tout notre entourage, non seulement nos enfants, mais tout notre entourage peut être affecté par notre couple, peut être influencé. Nos parents, nos amis, à l'intérieur de l'Assemblée, même nos voisins. Cette semaine, on a parlé à nos voisins, puis on était moi et Hélène, puis il y avait le couple de voisins, puis ils nous disaient, on vous dit ça parce que vous êtes des bonnes personnes, vous êtes un bon couple. Je dis, on a une impression à côté qu'on est un bon couple. On fait une impression, on influence les autres parce que l'on est. Notre couple influence les autres. Et c'est important de comprendre ça. Nos parents, nos amis, tous peuvent être influencés par notre couple. À l'Assemblée, lorsque nous entendons qu'il y a de la chicane ou un divorce ou quelque chose comme ça, on est extrêmement peinés. Ce n'est pas notre couple, c'est des gens, c'est des frères, c'est des sœurs, mais on est influencés, ça nous touche. Le couple, comme chacun de nous, doit être consacré à Dieu. Notre couple doit être mis entre les mains de Dieu. On se marie devant Dieu, mais notre couple, notre vie de couple se passe avec Dieu. Et la semaine passée, notre frère Trevor nous avait parlé d'Ecclésiaste. Deux valent mieux qu'un, parce qu'il en retire un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Chez nous, c'est moi à Fournaise. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Mais même si je suis la fournaise, quand j'ai personne à réchauffer, je suis encore froid. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, peuvent lui résister et la corde à trois fils ne seront pas facilement. Et comme Trevor nous disait, que la troisième corde, c'était certainement le Seigneur dans nos vies. Et c'est vrai, je suis d'accord avec ça. On disait que le couple doit être consacré. C'est le processus par lequel il passe. Afin qu'on regarde ce duo comme une seule chair. Dieu a voulu faire de ce duo une seule chair. Qu'est-ce que ça veut dire, une seule chair? C'est quoi ça, une seule chair? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de petit oiseau-là sur le bord de la plage. Je me rappelle, on était en Californie sur le bord de la plage. Puis, il y avait une multitude de ces oiseaux-là, des centaines. Impossible à compter parce que ces oiseaux-là volaient comme une personne, comme un oiseau. Ils montaient, ils descendaient, tournaient à gauche, tournaient à droite, ils se posaient, ils marchaient, ils mangeaient tous ensemble. Chaque oiseau individuel, sa job, c'était de surveiller l'autre pour faire pareil. C'est incroyable, quel genre de cerveau qu'il devait avoir. J'ai dit, puis on les a regardés longtemps, on a dit, ils font tout pareil. tout le temps, un seul banc, un seul oiseau, mais immense. C'est l'image que j'ai pu définir être une seule chair, un banc. Mais comment? Comment est-ce qu'un couple va se consacrer à Dieu? Comment? Premièrement, en partageant les bénédictions de Dieu, en partageant ce que l'on lit, en partageant ce que l'on vit. Il m'arrive de descendre en bas tout seul, j'ai besoin de mes moments d'intimité avec le Seigneur, même si je suis en couple. Mais par après, ce que le Seigneur me montre, je le donne à mon épouse. Ah, est-ce que j'ai lu le matin? Tu ne sais pas ce que j'ai lu le matin? Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit telle affaire. Et elle fait la même chose. Nous nous enrichissons l'un l'autre par les bénédictions de Dieu. Nous nous supportons l'un l'autre par les épreuves parfois que le Seigneur nous met devant nous. Un couple consacré. Un couple consacré en ayant un temps de prière. Ceux qui ont été à Aleph hier, vous allez vous apercevoir que c'est à peu près, il y en a quelques-unes qui sont pareilles. Arrivons. Avoir un temps de prière ensemble. Il y a le travail, les occupations, les enfants, le compte de banque, le REER, le ci, le ça, le char qui ne part pas, la toiture enlevée à la neige, il y a toutes sortes d'ouvrages. Mais il y a la prière. Et la prière doit toujours faire partie du couple. C'est un moment privilégié où on peut se répandre, où on peut répandre notre cœur devant Dieu et devant notre épouse ou notre époux. Ce temps d'intimité où les requêtes qui sont dites là ne seront jamais répétées ailleurs. Les prières que l'on fait, mon épouse et moi, personne ici n'a le droit de les entendre. Ce n'est réservé qu'à moi et qu'à mon épouse. Ah, certaines, non, mais d'autres, ça nous touche personnellement. Mais ce temps d'intimité-là crée des liens. Crée des liens avec Dieu, mais crée des liens comme une seule chair. Je deviens avec elle et elle devient avec moi. Ce temps-là, nos cœurs sont répandus devant Dieu. C'est énorme. Si vous n'avez pas ce temps de prière avec votre épouse, vous manquez énormément de bénédictions. Vous devez faire l'effort de créer cela. C'est indispensable. C'est pas nécessaire. C'est essentiel. Ah, vous pourrez vivre. Vous pourrez vivre. Ça ne vous empêchera pas de respirer puis de vivre. Mais il va vous manquer cette fibre-là que la prière apporte. On pourrait comparer la prière à l'entraînement à la course. Il y en a quelques-uns qui font du jogging dans la salle. Moi, je n'en fais pas. Ben, je n'ai pas le droit. Mais c'est un peu comme ça. Okay? Là, tu te lèves le matin, tu regardes, il fait 0, moins 1. Puis là, tu te dis, ah, ben, ça ne me tente pas de courir le matin. Ça vous a déjà dit ça? Ah non, pas courir, ça ne me tente pas. Mais tu te décides. Tu te décides, tu mets tes chou-claques, tu mets tes vêtements, ta petite tuque légère parce qu'il ne faut pas trop fret, là, tu pars. Là, tu fais ton 5, ton 10 km. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Je sais exactement de quoi je parle. Tu reviens, tu te dis, waouh, je fais la c'est bien. Me semble que hein, oh, j'ai bien fait d'aller courir. La prière, c'est la même chose. Ah, oh, prier, prendre un temps pour prier. Bon, OK. Mais un coup que tu as passé à travers cette étape-là, tu te dis, waouh, le Seigneur me bénit à travers ça. Donc, je creuse un peu là, sur la prière. Je pousse un peu sur la prière parce que je trouve ça important. Le couple doit être consacré à Dieu en ayant le même but. Notre frère Michel nous en a parlé le 11 février. En ayant le même but, une même vision sur l'avenir. Il est arrivé à un moment donné dans notre couple où nous devions prendre une décision difficile, moi et Hélène. Une décision qui nous devions vivre d'une certaine instabilité. Maintenant, je vous le dis, messieurs, demandez à votre femme de vivre l'instabilité. Ouh! Notre frère parlait de la mère au niveau 2, là. Là, ça serait la mère au niveau 5. Demandez à une femme, es-tu prêt à vivre l'instabilité? On s'est mis en prière. Et devant cette prise de décision-là, nous devions être une même voix. Si Hélène disait non, si Hélène disait « Ah non, ça ne me tente pas trop », tout mon château de cartes a retombé. Fini. C'était essentiel que nous soyons d'une même voix. La réponse d'Hélène a été un baume sur moi. Un baume. Vraiment, elle n'a peut-être pas su dans ce temps-là, là, mais ça m'a fait énormément de bien. Elle m'a répondu, « Je ne veux pas être la personne qui va s'opposer à la volonté de Dieu. » Wow! J'ai dit, « Le Seigneur change les cœurs. » Wow! C'est fantastique. Chacun de nous, dans notre vie, on a besoin des « wow ». Mais ça n'était un « wow » dans ma vie. Et il venait de mon épouse. Bien, du Seigneur qui avait travaillé dans le cœur de mon épouse. En étant une source d'encouragement pour l'un l'autre, le couple est consacré. En étant une source d'encouragement, les difficultés sont mises en commun dans le couple. Les décisions sont mises en commun dans le couple. Les conséquences des décisions sont assumées par cette seule chair. Voici une des phrases qui brise une relation de couple. Je te l'avais bien dit de ne pas faire ça. Ça devrait plutôt être « Je te fais confiance et je vis les bonnes décisions avec toi et j'assume les échecs avec toi aussi. » Et voici l'exemple parfait de la soumission de la femme. Vous vous rappelez le verset si controversé d'Éphésiens, « Que la femme soit soumise? » Ça ne veut pas dire que la femme doit suivre en arrière comme un petit chien, comme ça en disant « Je suis soumise. » Non. C'est la femme qui assume les décisions du couple. C'est la femme qui est derrière son mari et qui dit, « Même la décision que tu as prise, je l'assume avec toi. » C'est une soumission d'opération, une soumission de fonctionnement dans le couple et non pas une soumission d'autorité. On serait porté à dire quelque part, « Tu vas faire ce que je te dis. » Non. Tu vas faire ce qui te tente. Mais moi, je vais t'aimer. Dieu a créé le principe de la seule chair. C'est assez difficile d'être plus intime. Hein? Dans l'histoire d'intimité, là, c'est pas mal le top, ça. Ce que je fais à l'autre, je me le fais à moi-même. Les efforts que je fais pour plaire à l'autre me reviennent de la seule chair. Les joies de mon ou de ma partenaire sont mes joies à moi. Je ne connais absolument rien dans la couture. Absolument rien. Mais lorsque mon épouse réussit à faire quelque chose de beau puis qu'elle dit « Hey, regarde, j'ai réussi ça », je suis aussi joyeux qu'elle peut l'être. Je suis aussi fier qu'elle peut l'être. Une seule chair. Les tristesses de ma partenaire deviennent mes tristesses. Toujours selon le principe de la seule chair. Donc, je vais faire bien attention que ce ne soit pas de ma faute. Ça va faire ça de sauver, au moins. Ah, mais ça, c'est des belles théories. Des belles théories. Des théories qu'on pourrait appliquer. Mais l'amour dans le couple, si on veut qu'il soit vivant, il faut qu'il soit entretenu. Puis là, l'image que j'ai, c'est un poêle à bois. Moi, chez nous, j'ai un poêle à bois. Puis si je veux avoir chaud, il faut que je mette des bûches dedans. Qu'est-ce qui arrive si j'arrête de mettre des bûches dedans? Il vient frette. Il vient bien frette. C'est un principe qui est très simple. Mais c'est un principe qui s'applique aussi dans le couple. Une vie de couple, c'est un travail continu et répété. On pourrait penser qu'après 45 ans, j'ai plus besoin de travailler. Hein? Hey, ça fait 45 ans, de l'expérience, et tu as veuille de prendre ta retraite, tu vas apprendre complètement. Hein? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le travail dans mon couple est moins difficile parce que j'ai de l'expérience. Je sais où frapper, puis je sais où ça compte. Parce que j'ai de l'expérience. Mais si nous nous décidions, moi ou Hélène, individuellement ou ensemble, si on décidait d'arrêter de faire des efforts, si on décidait d'arrêter de se renouveler dans ce que l'on a à faire pour plaire à l'autre, si on décidait d'arrêter de faire grandir notre amour l'un envers l'autre, le feu va finir par s'éteindre. Puis qu'est-ce qu'on pensait, qu'est-ce qu'on croyait être acquis, va disparaître. C'est un principe de base. Mais voilà, c'est important dans le couple, la base. Je prends soin de mon partenaire. Je prends soin, on est un team. Et je prends soin de ceux qui sont dans mon team si je veux que le team avance. Il y a quelques années, j'ai traduit un cours sur le mariage, un cours américain. Puis il a fallu que je mette un titre. Et j'avais titré « Ma maison telle un jardin ». Certains d'entre vous ont traduit des textes là, dans ce livre-là. Pour ceux qui font un jardin, on sait qu'un jardin, pour produire de bons fruits, de beaux fruits, de beaux légumes, il faut absolument que ça soit un soin continu. Le labour, planter, fertiliser, désherber, recommencer tout le temps, puis jusqu'à temps qu'on ait une belle récolte, jusqu'à temps que ça soit complet, il n'y a pas de relâche. Le couple, c'est la même chose. Nous devons être à la recherche continuelle du bonheur de l'autre. Ça demande du travail. Et le premier facteur, la première chose que l'on doit impliquer dans le couple, c'est Dieu. C'est notre relation avec Dieu. Avant d'aimer mon épouse, je vais aimer Dieu. Je vais aimer la relation que j'ai avec Dieu. Et c'est important. Cette image-là, c'est Michel qui nous l'a emmenée. Le triangle. Et remarquez une chose. L'homme et la femme, plus ils sont proches de Dieu, plus ils sont proches l'un de l'autre. Quelle est, d'après vous, la plus grande distance qui peut exister? Voici la plus grande distance qui peut exister entre un homme et une femme. L'inverse est pareil. Il est rassurant, énormément rassurant pour un époux ou une épouse de savoir que son proche, qu'on est proche du Seigneur, que celle avec qui on est proche du Seigneur. C'est extrêmement rassurant. Le principe d'une seule chair devient beaucoup plus facile à appliquer parce que Dieu sert de catalyseur dans le couple. Vous savez, c'est quoi un catalyseur? Je vais vous donner la définition du dictionnaire. Je ne suis pas encore assez savant, vous savez par cœur. Élément qui provoque une réaction par sa seule présence ou par son intervention. Élément qui provoque une réaction par sa seule présence ou par son intervention. Dieu me dit, aime ta femme. Et si je veux respecter ce que Dieu me demande, je vais faire en sorte de lui obéir. C'est un catalyseur. Même si le couple se tient tout près de Dieu, le couple qui se tient tout près de Dieu a les meilleures chances au monde pour réussir. Dieu, qui n'est pas ingrat, il nous laisse quelque chose à faire. On a un travail à faire. On a quelque chose à faire. Ce n'est pas parce qu'on appartient à Dieu qu'il faut s'asseoir sur ses lauriers en disant « Ah, Dieu va le faire. Dieu va aimer mon épouse. » ça ne nous exempte pas de la responsabilité de faire quelque chose dans notre couple. Dieu nous demande d'abord de faire un travail de recherche à chacun. Qu'est-ce qui plairait à mon épouse? Qu'est-ce qui va plaire à mon épouse? Puis là, je vous donne des exemples, des suggestions. Je ne suis pas dans votre couple, je n'ai aucune idée comment est-ce que vous opérez, je sais comment est-ce que... Ça me prend toute ma petite chance pour savoir que moi, quoi faire. Je ne vous dirai pas quoi faire. Je peux vous donner des conseils, mais c'est tout. Des fleurs. Achetez des fleurs à votre épouse. De l'aide dans les travaux ménagers. Que les travaux les plus importants de la maison soient faits dans un temps raisonnable. Un souper au restaurant. Des remarques positives sur ce qu'elle fait. Ne jamais manquer une occasion de valoriser son épouse en public. Et je vous dis, j'ai une épouse merveilleuse. Puis je ne compte pas de menterie. Ou toutes ses réponses. Qu'est-ce qui fait plaisir à mon époux? L'accompagner dans ce qu'il aime faire. Savez-vous quoi? J'aime le football. Puis mon épouse aime le football aussi. J'aurais jamais cru. Je dis, elle regarde le football, on a des idées, on parle des équipes. Puis, je ne sais pas pourquoi, elle aime les mêmes équipes que moi. Là. J'aurais jamais cru qu'elle était pour aimer le football. Ma femme, c'est pas une sportive, mais elle aime ça. Remarquer ou valoriser ses bons coups, mesdames, un homme aime ça être valorisé. Un homme aime ça se faire taper sur l'épaule en disant « c'est bon ». D'être une aide dans ses travaux qu'il doit faire. Tu veux-tu peinturer le salon? On va prendre chacun un rouleau. OK, ça marche. Là, je vois des sourires. Là. Ne jamais critiquer. Un homme n'aime pas ça se faire critiquer. Ou si vous critiquez, soyez très diplomate. Le féliciter, le valoriser en public aussi. Ce travail de recherche appartient à chacun. Ça vous appartient à vous, ça. Okay? C'est à vous à trouver. C'est pas à moi. Moi, ça me prend assez de temps à trouver. Je ne trouverai pas pour les autres, certains. Une bonne manière de trouver, c'est peut-être d'y demander. Qu'est-ce que tu aimerais? Ou fais-y la surprise de le faire. Bon, je vais essayer ça, comme ça. Le deuxième travail, c'est un travail d'application. J'ai, maintenant que je sais ce que je dois faire, maintenant que j'ai trouvé, j'ai fait un plan, OK? Il va falloir que je passe à l'action. C'est beau rêver, là, mais vas-y, là. Mets tes gants, puis vas-y, fais ta job. Rappelez-vous, tout à l'heure, ce que j'ai dit, que c'est un travail de longue haleine. Qui doit se faire au quotidien. Rappelez-vous le poêle à bois. Arrêtez de le nourrir, il va être fret. Ici, je dois vous avertir, messieurs, un petit avertissement de circonstance. Si vous commencez une nouvelle activité que vous ne faisiez pas avant, il se pourrait que votre épouse pense « Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Qu'est-ce qu'il a à se faire pardonner? » Ou que c'est pourquoi qu'il fait ça. Ne vous découragez pas. Continuez. Et à un moment donné, votre épouse va être obligée de réaliser que Dieu travaille dans votre cœur, comme il travaille dans le sien. Le travail que je viens d'écrire est excessivement important parce qu'il vise le bonheur de mon compagnon ou de ma compagne. Michel disait souvent, Michel Benoît nous disait, ce qui est important, c'est la personne, c'est pas la chose. Je fais peut-être pas ce que je veux, mais si mon épouse est heureuse, si mon époux est heureux, c'est là que je vais retrouver mon bonheur. Je perds peut-être, j'ai peut-être pas la chose que je veux, la bébelle que je veux, parce que les hommes, on aime ça, les bébelles. Moi, je suis un gars bébelle, j'aime les bébelles. Hein? J'ai pas lâché mon enfance encore. Un jour, je vais peut-être réussir. Mais je n'ai pas ma bebelle, mais mon épouse est heureuse. Et ça, c'est important. Ça, c'est primordial. Si vous avez décidé de vous marier, votre premier ministère. Et là, le message s'adresse à un couple qui commence, un couple en milieu de vie, un couple plus âgé. Ça s'annonce, c'est pas aussi des personnes qui visent peut-être à se marier. C'est des personnes qui n'ont pas de personne dans leur vie, mais qui, un jour, aspirent à se marier. Pour toutes ces personnes-là, si vous avez décidé de vous marier, votre premier ministère, votre première responsabilité, c'est le bonheur de votre épouse. Ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas les frères, les sœurs. Ce n'est pas à l'intérieur de l'Église votre tout premier ministère. Votre premier ministère, c'est votre épouse. Vous savez, on est préoccupé par toutes sortes de choses dans la vie, notre travail, les enfants, notre rang social, compte de banque, REER. Par nos chums, mesdames, par vos copines. Mais un jour, tout ça, ça va disparaître. Tout ça va changer. Mais la chose qui va rester, qui devrait rester, c'est votre épouse. Elle va toujours être là. Tout le temps. Je peux changer de travail. Je peux prendre ma retraite. Je peux ne plus avoir de travail. Je peux aller dans une église. Je peux changer d'église. Mais je ne voudrais absolument pas changer d'épouse. Il n'est pas question. Et il faut faire les efforts pour ne pas que ça arrive. On doit se préoccuper du bien-être de la personne avec qui l'on vit. Et c'est important. Une autre tâche pour la santé. Une autre tâche pour la santé du couple, c'est la protection de ce qui vient de l'extérieur. Rien ni personne ne devrait venir se placer entre les époux. C'est chasse gardée. La femme mariée qui tend un piège à la vie précieuse. Voilà l'idée. Le jeu de Satan est détruire la création que Dieu a faite et le couple est très visé par Satan. Et malheureusement, il y a trop de réussite. Il doit avoir un mur de protection pour empêcher toute intrusion, toute proximité qui pourrait voler cette vie précieuse-là. Dans ce mur, même les enfants ne peuvent y pénétrer. C'est un cercle fermé. On a eu 3 filles qu'on a élevées du mieux qu'on pouvait, 3 magnifiques enfants. Il y avait des privilèges parce que c'est nos filles, mais jamais nous n'avons voulu de leur influence dans nos décisions de couple. Ça nous appartenait à nous et à nous seulement. Oh, il pouvait avoir des décisions de famille, et là, il était inclus. Mais jamais nos enfants ou qui que ce soit a rentré pour entre nous deux. Il y a eu des essais, on le sait. Mais on a gardé ça. Comment qu'on bâtit ça, un mur de protection? En ne faisant pas confiance en la nature humaine, en n'ayant aucune confiance en la nature humaine. Et là, quand je dis nature humaine, je dis ma nature humaine aussi. Celle des autres, mais moi aussi. L'étrangère n'a aucune place dans ma vie. L'étranger n'a aucune place dans la vie de mon épouse. J'ai conté une histoire hier, puis je vous la raconte aujourd'hui. Il y a un homme qui était éditeur pour un journal et il avait à voyager, il partait 2 ou 3 mois. Lorsqu'il revenait dans son église, là, les gens disaient « Ah, t'as-tu évangélisé? As-tu parlé du Seigneur beaucoup? Quel succès que t'as eu? » Tout ce beau monde-là, il parlait puis il prenait soin de sa santé. Mais il y en avait un qui revenait par après puis il posait les questions. Il disait « Quand tu étais dans une chambre d'hôtel seul, quel canal de télévision tu regardais? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé seul avec une femme? » Est-ce que tu as déjà eu telle ou telle pensée? Et la dernière question de la discussion était, est-ce que tu m'as menti durant l'entrevue? Et c'était convenu. Pourquoi? Parce qu'il se méfiait même de sa propre nature. Les choses que je cache à mon épouse sont les choses qui me font le plus peur. Et lorsque, à quelque part, j'ai certains sentiments, je suis un être humain moi aussi, je peux approcher une personne et avoir certains sentiments, la première personne à qui je le dis, c'est mon épouse. Pas pour la rendre jalouse, mais pour la sécuriser. La personne que tu as en avant de toi va toujours te dire ce qu'il en est. Ne jamais permettre de secret, que des secrets s'installent entre mon épouse et moi. On doit être d'une honnêteté parfaite, d'une honnêteté totale. Je veux citer Michelle Obama. L'une des choses que j'ai trouvées attirantes chez Barack, c'est son honnêteté émotionnelle. Il a dit comment il se sentait dès le départ. Il n'y a pas de cacheterie avec lui. Il est ce qu'il dégage. Je me sens privilégié d'avoir un mari qui m'aime et qui me le démontre de tant de façons. Je sais cela et maintenant, il saura que je le sais. Et nous voulons parler de la communication. Communiquer. Communiquer veut dire avoir la victoire sur le désir de cacher ses sentiments et ses pensées, dans le but de réussir à s'exprimer honnêtement. C'est une citation d'Henry Brand. Plein de choses peuvent nuire à la communication. Des problèmes majeurs, l'alcoolisme, la pression financière, la télévision, la peur de dire, les problèmes de boisson, plein de choses. Tout simplement, je ne sais pas comment faire. Il est important que rien n'empêche la communication. La communication dans le couple, c'est le désir de vouloir communiquer. C'est un geste d'amour. Je veux ouvrir mon cœur. Je veux t'ouvrir mon cœur. J'ai le goût que tu connaisses mon opinion et je veux savoir la tienne sur toutes sortes de sujets. Aucun sujet tabou. Il existe 10 commandements. C'est dur à lire, là, à moins que vous soyez capable de lire. Mais faites-vous-en pas, et le temps est passé, faites-vous-en pas. À la sortie, j'ai fait des photocopies de ces 10 commandements-là sur la communication. Si ça vous intéresse, prenez une feuille en sortant, un par coup, hein, vous êtes capable de lire ensemble, là, surtout après ce message-là. Et vous allez avoir 10 commandements, 10 manières de faire axées sur la parole de Dieu, Proverbes et Éphésiens. Mais ça aide dans la communication. Si vous avez des problèmes de communication, ça peut aider. Exemple, recherchez la bonne communication. Soyez empressé à écouter sans réagir. Considérez sérieusement que vous pouvez avoir tort. Soyez prêt de vous excuser, à demander pardon. Proverbe 12, 15. Je ne veux pas aller plus loin, tout simplement parce que le temps est écoulé, mais vous voulez que votre couple réussisse, vous voulez avoir une belle vie avec votre épouse, la première personne à aimer, c'est Dieu. La première personne à mettre dans sa vie, c'est Dieu. Dans votre relation avec Dieu, Dieu va vous dire, voici comment aimer ton épouse. Si vous placez Dieu en premier, tout ce qui vient ensuite va se placer dans l'homme. Celui qui ne place pas Dieu en premier, c'est confusion, confusion. Je vous souhaite pas bonne chance pour votre couple. Travaillez fort. Merci Seigneur, merci infiniment pour ce principe que l'on puisse aimer une personne autant sur cette terre. Merci Seigneur, car tu nous réunis ensemble, tu nous gardes ensemble, tu fais de nous Seigneur une seule chair. J'aurais jamais espéré sans toi avoir cela. Tu as sauvé mon couple et c'est toi qui le maintiens en vie. Je veux m'en référer à toi, pour ta gloire et pour ton nom, par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.